Et c'est le moment maintenant pour nous de regarder dans la parole de Dieu, dans Philippiens 3. Nous poursuivons cette série dans le livre de l'Épître aux Philippiens. Nous avons vu 1 et 2, et donc nous allons regarder le chapitre 3 cette semaine. Et pour la lecture de la parole, je vous invite à vous lever. Philippiens chapitre 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité, ou plutôt notre citoyenneté, est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Prions ensemble. Notre Père, nous te supplions encore une fois, enseigne-nous ce que nous ne savons pas. Donne-nous ce que nous n'avons pas et fais de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez prendre place. Chaque famille, chaque personne a ses tactiques et des stratégies différentes pour gérer des colporteurs, qu'il s'agisse des gens qui viennent à la maison ou ceux qui appellent au téléphone. Bien évidemment, on peut tout simplement dire non merci, mais comment les faire partir et ne pas revenir ? Une de mes tantes, à chaque fois qu'elle recevait un appel pour vendre de nouvelles fenêtres, elle disait tout simplement « J'ai déjà quelqu'un qui vient la semaine prochaine, merci, donc j'en ai pas besoin. » Ce n'était pas vrai, donc je ne recommande pas ça. Je crois que ma réponse préférée, c'est d'une de mes anciennes collègues, une des anciennes collègues de ma mère à l'école où elle enseignait, qui disait à chaque fois « Mais j'aime mes fenêtres. » Comment pourrait-on oser suggérer que ces jolies fenêtres ont besoin d'être remplacées ? Et en fait, dans un sens, dans ce chapitre, c'est quelque chose de semblable qu'encourage Paul les Philippiens à faire en réponse aux gens qui viennent colporter de faux enseignements. Au premier chapitre, nous avons vu Paul aider ses chers Philippiens à affronter les épreuves et les pressions de la souffrance et la mort. Au deuxième chapitre, nous l'avons vu les aider à affronter les luttes internes, des disputes entre eux et l'égoïsme qui se trouve en chacun de nous. Et ici, au troisième chapitre, il veut les équiper pour qu'ils soient prêts à faire face à des faux docteurs. C'est à ces faux docteurs qu'il fait référence au verset 2 lorsqu'il parle des chiens, des malfaiteurs et des mutilateurs. Paul ne supporte pas du tout ces gens-là. Et plus tard, à partir du verset 18, nous verrons qu'il ne s'agit pas de colporteurs innocents et intéressants, ce sont des ennemis de la croix du Christ. Et il nous faudra regarder un peu plus tard le contenu de leur enseignement, mais en gros, il s'agit de l'enseignement qui fait la promotion des règlements alimentaires et des lois qui appartenaient exclusivement à l'ancienne alliance et de la circoncision aussi. Et Paul veut les aider à faire face aux défis de ces faux enseignants. Et souvenez-vous que tout cela se trouve dans le contexte de sa prière au verset 9 à 11 du chapitre 1er. C'est nos versets clés pour nos études en Philippiens. « Je prie, disait Paul, que votre amour abonde de plus en plus en toute connaissance et discernement, qu'ainsi vous sachiez éprouver ce qui est important ou excellent, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Et on a vu avec Jean Calvin, en regardant ces versets il y a 2 semaines, que c'est ça la définition de la sagesse. Pouvoir discerner ce qui est excellent ou meilleur à la base de la vérité que nous connaissons. Ce que Paul souhaite au sujet des Philippiens en général, c'est qu'ils soient de plus en plus unis dans un sens réel, dynamique et vivant. Et plus précisément, il veut que leur amour grandisse pendant qu'ils apprennent et qu'ils réfléchissent ensemble. Pendant qu'ils cherchent à saisir la vérité, pendant qu'ils cherchent pendant qu'ils la mâchent ensemble, pendant qu'ils discernent ce qui est meilleur ensemble et qu'ils décident ensemble ce qu'il faut faire ensemble. Et donc maintenant que j'ai dit le mot ensemble plusieurs fois, ceux parmi vous qui étaient là les 2 semaines précédentes savent maintenant exactement ce que je vais vous demander de faire. Et oui, encore une fois, regardez autour de vous. Regardez qui est à droite et à gauche. Je vous donne un instant pour regarder. Remarquez ceux avec qui vous êtes en train de connaître ces choses, ceux avec qui vous êtes appelés à connaître ces choses-là. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes tous ensemble pour entendre cela. Et on a donc ce même modèle qu'il enseigne tout au long du livre, le modèle que nous avons vu les 2 dernières semaines et que nous reverrons aujourd'hui. Le modèle savoir, discerner, faire. savoir discerner, faire. Ce n'est pas juste un tas de choses à savoir, ce n'est pas juste un tas de choses à faire. Tout cela va ensemble avec de la réflexion et du discernement entre les deux. Commençons alors avec ce qu'il faut savoir ici pour faire face à ces faux docteurs. Que faut-il que les frères et sœurs à la chapelle de Philippe sachent pour les aider à affronter ce défi? Ben, tout comme la collègue de ma mère qui disait « mais j'aime bien mes fenêtres », il faut savoir que Jésus est meilleur. On chante et on va chanter tout à l'heure. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Et on le pense vraiment. C'est tout simplement ça qu'il faut qu'il sache. Regardez le verset 8, où Paul nous dit que le fait de connaître Christ Jésus, notre Seigneur, est excellente. C'est d'une valeur inestimable. Quoi que vous me proposeriez, Jésus est meilleur. La valeur de connaître Jésus surpasse tout ce que l'on pourrait me proposer. Gagner le Christ, puis au verset 9, être en Christ et être juste en Christ par la foi en lui. Et au verset 10, le connaître, lui et la puissance de sa résurrection, et oui, même partager ses souffrances et être ressuscité avec lui, tout cela est meilleur que tout le reste. Vous devez savoir, vous avez besoin de savoir que c'est le privilège le plus précieux qui soit. Connaître le Christ est la meilleure chose qui soit. Quelqu'un qui me propose autre chose que Jésus, ou même quelque chose en plus de Jésus, ne m'offre rien de meilleur. C'est ça que vous devez savoir. Que faut-il discerner alors à partir de cela? C'est ça la prochaine étape. Que devrait-il discerner? Très simplement, en comparaison avec Jésus, tout le reste, c'est des ordures. En comparaison avec Jésus, tout le reste, c'est des ordures. Et si c'est le cas, lorsque j'entends un enseignement qui est nouveau pour moi, je dois demander si cela m'aide à mieux connaître Jésus ou pas. Cet enseignement m'aide-t-il à mieux connaître Jésus, ou est-ce plutôt le cas que l'on me dit que j'ai besoin d'autre chose que Jésus ou quelque chose de plus? Et ensuite, si l'on propose quelque chose de plus, un supplément à Jésus, je dois discerner que c'est des ordures. Et les Philippiens devaient être prêts à discerner ainsi et à faire ce calcul parce qu'il y avait des faux docteurs qui rôdaient dans la région. Verset 2, c'est des chiens, c'est des malfaiteurs, c'est des mutilateurs. Et quel était leur enseignement? En fait, l'ironie dans la description que donne Paul au verset 2 nous donne des indices sur l'enseignement et ce que fait également le verset 3. Il est probable, plus que probable, que ces enseignants leur disaient « C'est bien que vous croyez en Jésus, mais vous avez vraiment du chemin à faire. » Parce que franchement, il y a trois choses supplémentaires dont vous avez besoin. Vous devez respecter les règlements alimentaires de l'Ancienne Alliance. Vous devez obéir à toutes les lois de l'Ancienne Alliance. Vous devez être circoncis. Et donc Paul parle de manière ironique au verset 2 pour dire « Ces hommes qui veulent que vous respectiez les anciennes règles alimentaires, ce sont des chiens qui ne mangent que des restes et de la bouillie. » Ces hommes qui veulent que vous obéissiez aux lois de l'Ancienne Alliance, eux sont des malfaiteurs. Ces hommes qui veulent vous faire circoncire, ce sont des mutilateurs. Et donc, verset 3, il déclare, « Nous n'avons pas besoin de la circoncision, parce que c'est nous la circoncision, c'est nous les vrais circoncis, dans le sens que nous avons été circoncis dans notre cœur par le baptême et la puissance de l'Esprit. Et la preuve, c'est le simple fait que c'est nous qui rendons un culte par l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas besoin de garder les anciennes règles civiques qui ont été données à l'Église sous l'Ancienne Alliance, pendant qu'elle était aussi une nation, parce que c'est nous qui glorifions en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'observer les lois alimentaires, parce que nous ne faisons pas confiance à la chair. Si l'Esprit de Dieu est venu et que nous adorons Dieu en lui et par lui, dit Paul, et si Jésus-Christ est venu, alors nous avons toutes les choses vers lesquelles les faits de l'Ancienne Alliance pointaient. Un jour, Jean reçoit un message de son patron qui dit qu'il doit partir en voyage d'affaires pour une semaine. Et juste avant son départ, son épouse Jeanne lui donne une photo récente d'elle et de leurs enfants. Et elle l'embrasse et lui demande d'emmener la photo avec lui à tout moment pendant son voyage. Et c'est ce qu'il fait. Il porte la photo partout. La photo est toujours dans sa poche. Chaque fois qu'il a une pause dans les réunions, il sort la photo de la poche de sa veste, il regarde la photo, il sourit. Et au dîner, il sort la photo, il montre à ses collègues pour qu'ils puissent voir sa chère épouse et leurs enfants, et tout va très bien. Quelques semaines plus tard, Jean est chez lui. C'est un samedi matin et avec Jeanne, il est dans le salon en pyjama en train de jouer avec les enfants. Et Jeanne, croyez-vous qu'elle dirait à Jean « J'étais pas clair, t'as pas ta photo. Qu'est-ce qui se passe là ?» Mais bien sûr que non. Ce serait ridicule, n'est-ce pas ? Jean n'a pas besoin de la photo. Jeanne et les enfants sont là avec lui. Il a la réalité vers laquelle pointait la photo. Il n'a pas besoin de la photo. Mais voici ce que disaient les faux docteurs. Pourquoi tu n'as pas ta photo ? Avoir Jésus, c'est bien, mais il faut avoir la photo aussi. Avant de revenir à Paris il y a 2 ans, je servais dans une église à Londres qui a fait des énormes travaux sur leur bâtiment pendant l'année que j'étais là. Ils ont quasiment tout reconstruit et ça a pris une année. Il nous fallait nous réunir ailleurs pendant cette année-là. Ils ont terminé les travaux en septembre, il y a 2 ans. Mais en juillet, juste avant, on a pu visiter le bâtiment pour voir comment ça allait. Et c'était super. La structure était là. Il fallait juste remplir les détails. Donc on pouvait avoir vraiment une bonne idée du produit fini. Et pendant cette visite, il y avait des règles à suivre. Pas de sandales. Il fallait des vraies chaussures. Il fallait porter un casque, un gilet jaune. Il fallait pas être plus que 14 personnes à la fois dans le bâtiment. Et on a obéi à ces règles et on a eu une visite très agréable de ce nouveau bâtiment. Mais lors de l'ouverture en octobre, et lors du premier culte, il n'y avait aucune mention de ces règles. Personne n'est allé devant l'assemblée avant le culte pour dire « c'est sympa que vous soyez tous là, mais on a de sérieux problèmes. Il manque quelque chose. » J'ai vu plusieurs sandales, je n'ai vu aucun casque, aucun gilet jaune, et franchement, il y a beaucoup trop de monde ici. Et pendant qu'on parle de problème, si la personne qui a enlevé l'échafaudage est présente, on la remercierait de l'avouer et remettre à sa place le plus tôt possible. Personne n'a dit cela et ça n'a choqué personne. C'était des choses et des règles qui étaient appropriées en juillet, mais pas du tout en octobre. En juillet, c'était des bonnes règles qui nous ont permis de profiter du bâtiment dans l'état où elle était. Mais en octobre, ce n'était plus des règles pertinentes ou utiles. Non, ça aurait été un fardeau inutile qui aurait distrait tout le monde de ce grand bâtiment achevé. Et c'est la même chose ici. Maintenant, puisque le Christ est venu et puisqu'il a envoyé son esprit, nous avons les réalités vers lesquelles ces lois pointaient. Des lois qui étaient bonnes et appropriées dans l'Ancienne Alliance, mais qui n'ont pas leur place aujourd'hui. Alors discernez ceci. Lorsque quelqu'un débarque, il dit « Vous avez besoin de X », votre devoir n'est pas de dire « oui » immédiatement, ni « non » immédiatement, mais de poser la question. L'objectif de cette chose, c'est m'aider à mieux connaître Jésus, ou est-ce un ajout, quelque chose dont on me dit que j'ai besoin en plus? Et rappelez-vous que connaître Jésus est meilleur. Mais il se peut que certains de ces faux enseignants pourraient dire « Oui, Paul, tu dis ça parce que tu es jaloux. Tu aimerais avoir ce que nous en a. Tu veux juste te sentir mieux par rapport à ce qui te manque. » Mais il est très clair à partir du verset 4 que ce n'est pas du tout le cas, n'est-ce pas? Il dit « Si je voulais me vanter dans mes qualifications en termes de la loi de l'Ancien Testament, je vous battrai, chacun de vous. Si je voulais me réjouir dans mon CV de l'Ancienne Alliance, je pourrais, verset 5. J'ai été circoncis le huitième jour du peuple d'Israël, tribu de Benjamin. Je suis aussi hébreu que possible. J'ai étudié la loi en long et en large. J'étais super engagé au point de persécuter tout mouvement nouveau qui surgissait, comme ces chrétiens. J'étais irréprochable. Mais tout cela, quand je le compare à la connaissance de Jésus, c'est des ordures. C'est une perte. Jean Calvin écrit ceci en commentant sur le verset 10. Jésus-Christ est connu comme il appartient quand nous ressentons l'efficacité de sa mort et sa résurrection. Je vais répéter ça. Jésus-Christ est connu comme il appartient quand nous ressentons l'efficacité de sa mort et sa résurrection. Or, toutes choses nous sont données ici. La destruction du péché, la délivrance de la condamnation, la victoire de la mort, l'acquisition de la justice, l'espérance de l'immortalité bienheureuse. Fin de citation. Paul encourage les Philippiens à répondre à cette fausse doctrine en disant « Ne comprenez-vous pas combien Jésus est précieux? Ne comprenez-vous pas combien sa mort et sa résurrection sont puissantes et efficaces? Ne comprenez-vous pas que nous avons tout dont nous pourrions avoir besoin en lui? » Alors, comment ces règles, ce retour aux règles alimentaires de l'Ancien Testament et aux lois de l'Ancienne Alliance et à la circoncision, comment ces choses-là m'aideront-elles à mieux connaître Jésus maintenant? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. C'est ça la différence entre l'enseignement des faux docteurs et les autres pratiques que nous devrions pratiquer dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'on a des pratiques. Il est bon d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que cela pointe vers le privilège qu'est votre union avec le Christ. Il est bon de se rassembler le dimanche, le jour du Seigneur, pour lui rendre un culte. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de grâce qui vous conduit vers le Christ, en tant que communion entre Christ et l'Église. Il est bon de vivre en communion fraternelle avec l'Église. Pourquoi? Parce que c'est ici que nous grandissons ensemble en notre connaissance du Christ et notre amour pour lui. C'est ici que nous le glorifions ensemble et que nous retrouvons la joie en lui. Il est bon de revenir à la table du Seigneur pour prendre la Sainte Cène. Pourquoi? Parce que là, vous vous nourrissez du Christ dans vos cœurs. Par la foi. Sachez donc que le fait de connaître le Christ est meilleur. Et discernez que vous avez tout dont vous avez besoin en lui. Et tous les suppléments, tous les alternatifs c'est des ordures. Dans un dernier temps, alors, donc, que devons-nous faire? Que faire? Savoir, discerner, faire. Ben, il y a plusieurs choses à dire ici, en fait. Tout d'abord, et clairement, verset 1, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, ne vous réjouissez de rien d'autre, mais réjouissez-vous du Seigneur, le Seigneur Jésus, et tout ce qu'il a fait pour vous. Notez bien que ce verset ne dit pas « En plus, mes frères, retrouvez le sourire. » Il dit spécifiquement « Réjouissez-vous dans le Seigneur, parce que cela vous gardera en sécurité. » Si vous êtes satisfait de vos fenêtres, vous n'allez pas laisser les gens entrer et les remplacer. Contemplez ce que vous avez en Christ. Le théologien anglais du XVIIe siècle, John Owen, a dit que notre plus grand obstacle dans la vie chrétienne, ce n'est pas notre manque d'effort, mais notre manque de connaissance de nos privilèges en Jésus-Christ. J'avais un pasteur qui répétait ça quasiment chaque occasion qu'il avait, et j'ai trouvé ça, c'est vraiment une des phrases qu'il faut graver sur le cœur, donc je vais le répéter aussi. Notre plus grand obstacle dans la vie chrétienne, ce n'est pas notre manque d'effort, mais notre manque de connaissance de nos privilèges en Jésus-Christ. Un manque de connaissance de nos privilèges, le fait de ne pas saisir les richesses que nous avons en Christ, ne pas voir à quel point nous devons et nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous donc dans le Seigneur. Une deuxième chose que l'on doit faire, verset 12, on persévère, on poursuit la course. Vous l'avez remarqué quand on a lu, il veut continuer à connaître Jésus. Verset 10, il veut poursuivre, verset 12. Et encore au verset 14, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Il ne dit pas, bah, super, je connais Jésus maintenant, c'est réglé. Il veut continuer, il veut poursuivre. Lorsque Jean rentre de son voyage d'affaires, il range la veste avec la photo dans la poche. Il ne se contente pas de s'asseoir et dire, bon, ça c'est fait. Bah, non, il trouve Jeanne et les enfants. Il leur donne un gros câlin. Il passe du temps avec eux et ils l'amènent dans un resto. Une fois le projet de construction était terminé dans l'église, on n'est pas entré en disant « bon, ça c'est fait, on a fini le projet ». Non, on travaille pour profiter au maximum du nouveau bâtiment. Or, au verset 15, nous voyons qu'il n'est pas forcément évident pour tout le monde que la connaissance du Christ mène à une confiance qui fait quand même tout son possible pour avancer, qu'elle mène à un effort confiant. Certains pensent peut-être que c'est une excuse pour être paresseux, mais là, c'est une façon immature de comprendre les choses. Mais la manière mûre de comprendre cela, verset 15, c'est la connaissance du Christ mène à un effort confiant. C'est un effort pour connaître Jésus dans toutes les circonstances, connaître le Christ partout. Si Jésus est meilleur que toute chose, alors il est toujours meilleur que toute chose. Poursuivez donc en toutes circonstances pour le connaître mieux. Apprenez à connaître les incroyables richesses qu'il vous fournit, la justice complète qu'il vous donne, verset 9. Apprenez à le connaître. Apprenez à connaître la puissance de sa résurrection, verset 10. Apprenez à connaître tout ce que sa résurrection signifie pour votre vie et réjouissez-vous en elle. Apprenez à le connaître au point que même la souffrance et la mort sont des lieux où vous pouvez connaître Jésus qui a marché sur ces chemins obscurs avant vous et qui marche avec vous. C'est ce qui est étonnant dans la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il n'y a aucun puits si profond ou sombre que Jésus n'y soit jamais allé avant, et de sorte que vous ne pouvez pas avoir la communion fraternelle avec lui là-bas. Il a été dans les puits de la souffrance et de la mort, et vous pouvez même le connaître là-bas. Alors, efforcez-vous de le connaître. Poursuivez pour continuer à le connaître. Un cantique que l'on pourrait apprendre une autre fois quand on a des instruments pour nous aider, le dit ainsi. J'ai tout quitté pour te suivre. Ô Jésus, j'ai pris ma croix. À toi, pour mourir et vivre pour toujours, j'ai fait mon choix. La pauvreté, la souffrance, l'abandon et le mépris, j'ai tout accepté d'avance. Mon bonheur est à ce prix. Que le monde me délaisse. Jésus est là, c'est assez. Qu'on m'insulte, qu'on me blesse, mon maître aussi fut blessé. Sous mes pieds, orgueil tenace, oripeau, gloire d'un jour, il me reste à votre place Dieu, son ciel et son amour. Nous voyons au verset 12 que la connaissance du Christ, bien qu'elle nous donne un grand réconfort et une grande sécurité, parce que Christ Jésus nous a fait sien, elle ne nous amène pas à nous reposer sur nos lauriers, mais à continuer à le connaître encore plus profondément. Ainsi, si nous devons poursuivre, nous voyons au verset 17 que nous devons imiter Paul ensemble et imiter toute autre personne qui imite Paul. On a vu un peu dans les deux dernières semaines, n'est-ce pas, un élément clé de la croissance de la piété et l'imitation d'autres personnes pieuses. Et ici, il nous dit spécifiquement que l'imitation de Paul est un projet de groupe. Il ne dit pas juste « soyez mes imitateurs ». Le mot a un sens un peu ajouté. Littéralement, « soyez mes co-imitateurs ». Imitez-moi ensemble. On devrait imiter Paul ensemble, imiter d'autres gens pieux ensemble. Et imitez-les en particulier ici dans leur mentalité céleste. Nous ne devons pas être comme des ennemis de la croix du Christ au verset 18, ceux qui ont une mentalité terrestre, mais plutôt au verset 20, imiter ceux qui savent que leur citoyenneté, on a cité dans cette traduction, mais leur citoyenneté est au ciel. Ceux qui attendent Jésus sans dépendre des règles qu'ils ont pu respecter, ceux qui attendent la transformation de la résurrection, où on sera tous transformés et on passera de l'humilité à la gloire. Ainsi, lorsque nous entendons des faux enseignements qui veulent distraire de Jésus, nous devons savoir que Jésus est meilleur. Nous devons discerner que tout le reste, en comparaison avec lui, c'est des ordures. Et qu'est-ce qu'on fait? On poursuit pour le connaître. Chaque fois que je lis ce chapitre, je me souviens du docteur Ellen Roosevelt. C'était une missionnaire britannique qui est décédée il y a à peu près 2-3 ans, je crois, et qui a probablement vécu ce chapitre-ci plus que toute autre personne au XXe siècle. Elle a écrit quelques livres sur ses expériences. Elle est devenue chrétienne, en fait, lorsqu'elle était étudiante. C'était pendant une retraite de son GBU, ou l'équivalent britannique. Je pense que c'était le même GBU dont j'ai fait partie beaucoup plus tard, en fait. Et l'orateur, pour cette retraite, lui a donné une Bible et il a écrit dans la page de garde, Philippiens 3, 10. Il lui dit, « Tu es entré ce soir dans la première partie de ce verset. Tu le connais. Et ma prière pour toi, c'est que tu apprennes à connaître et à vivre le reste de ce verset. » En connaissant la puissance de sa résurrection. Et peut-être un jour, Dieu te donnera le privilège de connaître un peu la communion de ses souffrances. Alors dire ça à une chrétienne toute neuve, c'est pas rien. Mais elle a retenu ce commentaire et elle a prié la même chose pour elle-même aussi. Plus tard dans sa vie, quand elle est allée à une conférence sur la mission dans le monde, elle a annoncé à tout le monde qu'elle voulait être missionnaire. Et ensuite, elle est allée se promener dans les montagnes et elle a dit dans ses prières, « D'accord, Seigneur, aujourd'hui, je le pense vraiment. Vas-y, fais-moi ressembler à Jésus, quoi qu'il en coûte. Mais s'il te plaît, lorsque je sens que je ne peux plus le supporter et je crie « Arrête !» Merci de ne pas tenir compte de ce que je dis et de te souvenir plutôt du fait qu'aujourd'hui j'ai dit « Vas-y !» Elle est devenue missionnaire médicale au Congo et elle était vraiment captivée par cette incroyable nouvelle que Jésus l'aimait et qu'il est mort pour elle. Donc elle a dit qu'elle était prête à aller n'importe où et à tout faire pour lui. Et elle était là lorsque le Congo a lutté pour son indépendance de la Belgique, et pendant ce temps-là, elle a été emprisonnée. Elle a souffert d'une brutalité épouvantable et indicible. Mais elle comprenait que cela aussi faisait partie de la communion des souffrances du Christ, et que tout cela mène à la connaissance de l'incroyable puissance de sa résurrection. Elle savait et ressentait que même si on suit Jésus au calvaire, c'est suivre Jésus, connaître Jésus, être avec Jésus. Et donc son témoignage à elle, c'était que c'était un privilège. Elle a dit, le privilège était plus grand que le prix. Ce serait génial dans un sens que d'avoir Hélène Rosevert et l'apôtre Paul ici. Paul qui, souvenez-vous, écrit pendant qu'il est sous les verrous ici. Et comme ça, si jamais quelqu'un venait et disait, vous avez besoin de tout ça, vous avez besoin de ces règles et ces pratiques supplémentaires, on pourrait tout simplement dire, ouais, ben dites-le à Paul. Dites-le à la docteure Rosevert. Mais aussi, c'est un peu ça l'idée de travailler pour être leur co-imitateur, n'est-ce pas? Pour que nous aussi puissions être la preuve vivante que Jésus est meilleur et que Jésus est tout dont nous avons besoin. Prions. Nous allons prier à la fin de cette prière. Nous allons dire ensemble notre Père qui s'affichera sur l'écran. Prions. Notre Père Céleste, nous t'adorons, nous te louons pour notre Roi Jésus. Nous te remercions pour le privilège de le connaître. Nous te remercions parce que nous pouvons le connaître dans les pires des circonstances. Il est là avec nous et que cela nous amène vers une connaissance encore plus forte de la puissance de sa résurrection et du privilège de le connaître. Aide-nous tous à discerner ensemble qu'en comparaison avec Jésus, tout est des ordures. Et aide-nous à poursuivre pour le connaître et aide-nous à nous réjouir, pas en général de manière abstraite, mais en Jésus-Christ. Et aide-nous à le faire ensemble, aide-nous à nous aider les uns les autres à le faire, aide-nous à être des co-imitateurs de Paul, de Hélène Rosevert, de tous ceux qui ont suivi ce chemin. Aide-nous à être des co-imitateurs les uns des autres lorsque nous voyons la piété les uns dans les autres, pour que nous puissions te connaître et te rendre gloire dans tout ce que nous faisons. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.